Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de France catholique. Pour commencer cette revue commentée, nous allons parler du sujet brûlant de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Pourriez-vous nous en dire plus?
Alors, il s'agit d'une annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qui a annoncé vouloir inscrire dans la Constitution la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est un sujet que nous abordons, que nous décortiquons dans la revue de presse qui, comme chaque semaine, est signée Guillaume Bonnet. Ce qui est intéressant à constater, c'est que eh bien, le chemin parcouru depuis la loi Veil de 75 s'apparente en vérité à une fuite en avant. Alors pour bien comprendre, il faut peut-être faire d'abord un retour en arrière, revenir à l'origine, qui est la loi donc de 1975, qui est la loi de dépénalisation de l'avortement, qui était formellement à l'époque hein, interdit depuis 1810 et qui avait été portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé, et c'était Valéry Giscard d'Estaing qui était à l'époque le président de la République. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que en 1975, des garde-fous avaient été mis par Simone Veil elle-même. On parlait à l'époque de clause de conscience des médecins, de critères de détresse pour justifier, plutôt pour autoriser un avortement, du non-remboursement de l'avortement, de l'autorisation parentale pour les mineurs, de la pratique dans un environnement médical, du délai de réflexion, de l'intervention à pratiquer dans un délai de 10 semaines. Simone Veil elle-même avait dit, par exemple, que l'avortement restait toujours un drame et que cela resterait toujours ainsi, hein, avait-elle dit. Guillaume Bonnet, hein, qui signe donc cette revue de presse, souligne avec ironie que ces propos seraient aujourd'hui taxés de rétrograde, ce qui est bien la preuve qu'il y a une fuite en avant dans ce domaine de l'avortement. Puisque que reste-t-il de cette loi Veil, puisque désormais l'avortement est possible dans un délai de 14 semaines, que le délai de réflexion a disparu, qu'il est remboursé à 100% par l'assurance maladie, que la notion de détresse a été supprimée, que l'autorisation parentale a été escamotée, qu'il y a eu aussi la généralisation de la pilule du lendemain, dont tout le monde a oublié eh bien, le caractère abortif. Et désormais, il est question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Très concrètement, c'est un geste qui serait très fort, très important, puisque l'avortement serait en quelque sorte protégé par la Constitution, qui eh bien, le document qui est la plus haute valeur juridique dans notre pays. Alors, pour comprendre pourquoi d'un coup l'avortement eh bien, arrive dans l'actualité, il y a, en tout cas c'est invoqué par les politiques, le contexte américain, hein, puisqu'il y a quelques mois, la Cour suprême américaine avait renvoyé, pour expliquer ça rapidement, avait renvoyé aux États qui constituent les États-Unis la responsabilité de gérer eux-mêmes la politique d'avortement. Et donc, cela voulait dire tout aussi bien la promouvoir s'ils le voulaient ou bien interdire l'avortement. Et donc, depuis cette décision de la Cour suprême américaine, qui n'est donc pas en France ni même sur le continent, eh bien, malgré tout, la menace est agitée par les défenseurs de l'avortement en expliquant que ce droit est menacé. Alors même, et on l'indique dans cette revue de presse de France Catholique, selon un sondage de l'IFOP de juillet 2022, eh bien 83% des Français sont favorables à l'autorisation de l'avortement et, soit dit en passant, 86% de ceux qui se déclarent catholiques pratiquants sont favorables à l'avortement. Donc on voit mal où se trouverait la menace en France qui pourrait justifier que ce droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution. Alors, qu'en est-il de la suite? C'est une vraie question. Il y aura peut-être un blocage du Sénat, puisque son président, Gérard Larcher, a expliqué ne pas vouloir inscrire l'avortement dans la Constitution. Mais au-delà de toutes ces considérations politiques, à la fois sur les motivations et les motivations qui poussent cette inscription du droit dans la Constitution, eh bien, on peut s'interroger aussi sur un avortement qui est devenu un culte laïque dans une république sécularisée, puisqu'on parle de droit sacré à l'avortement, de sanctuarisation de l'avortement, ce qui montre bien que l'avortement est devenu un totem, notamment par la frange la plus progressiste de la société et de la politique française.
Merci Constantin pour ces dernières nouvelles. Nous enchaînons maintenant avec le dossier, on va dire le grand focus de cette nouvelle édition de France Catholique, donc à savoir les ostentations limousines, donc qui commenceront dimanche prochain, donc à savoir le 19 mars. Alors en quoi cela consiste?
Alors oui, comme vous le savez, France Catholique est très attachée à la piété populaire, et donc nous voulions aborder ce grand événement que sont les ostensions limousines, hein, qui sont les ostensions des reliques des grands saints du Limousin de cette région qui couvre les départements de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Creuse. C'est une pratique qui est très ancienne, c'est une pratique millénaire qui remonte au Xe siècle, et désormais tous les 7 ans, des reliques des saints du Limousin sont vénérées par les habitants dans de grandes processions avec des figurants costumés, le tout pendant plusieurs semaines. Ce qui est assez émouvant, c'est que chaque paroisse du Limousin est censée apporter en quelque sorte et montrer les reliques des saints aux autres paroisses de la région. Alors, pour comprendre cette ferveur, là aussi, il faut remonter dans le temps, il faut remonter très loin, il faut remonter donc 1000 ans en arrière, en 994 pour être exact, puisqu'à l'époque, la région du Limousin est frappée par ce qu'on appelait le mal des ardents. Le mal des ardents, c'était une épidémie provoquée par un parasite du seigle, une épidémie qui a provoqué alors des centaines de morts. Et qui a poussé les habitants du Limousin eh bien à faire une requête. Cela s'est déroulé le 12 novembre, donc 994, à 5 h du matin pour être très exact. Des fossoyeurs se sont mis à creuser sous l'autel de la basilique Saint-Sauveur dans l'abbaye Saint-Martial de Limoges, puisque la population avait supplié l'évêque de Limoges et le père abbé de l'abbaye. Eh bien, de sortir les reliques du premier évêque de Limoges, Saint Martial. Il y a donc eu l'ouverture du cercueil en plomb. Alors, on raconte hein, dans France Catholique, on raconte comment ce cercueil eh bien, était déterré. Hein. C'était toute une aventure, puisque dès les premiers siècles, hein, on en a déjà parlé, il me semble, dans l'émission de la semaine dernière, les chrétiens ont toujours eh bien, eu beaucoup de vénération pour les restes des personnes qui ont eu des vies édifiantes et qui sont devenues saintes, canonisées par la suite. Et donc, le corps de Saint Martial était vraiment bien protégé. Donc, il a fallu du temps pour sortir ses reliques, sortir ce cercueil en plomb. Et une fois que le cercueil a été ouvert, eh bien, un parfum suave s'est répandu, hein, ce qu'on appelle communément l'odeur de sainteté. Le corps a été placé dans une châsse en or. Et à ce moment-là, 7 000 malades ont été guéris. C'est ce qu'on a appelé le miracle des ardents. Et 100 ans plus tard, une nouvelle épidémie s'est déclenchée. Et à nouveau, l'épidémie a été enrayée grâce à l'ostension des reliques de Saint Martial. Et c'est le début de cette tradition des ostensions, cette tradition de montrer, de proposer à la vénération du peuple les reliques des saints du Limousin, des ostensions donc, qui ont 1000 ans, qui n'ont pas été sans tribulation. Elles ont été par exemple interdites de 1799 à 1806. Elles ont été également confinées dans les églises par pur anticléricalisme de 1883 à 1953. Mais depuis tous les 7 ans, donc, et avec une ferveur renouvelée, il y a ces ostensions des grands saints du Limousin.
Alors justement, quel impact a cet événement sur les paroissiens et que dire de la piété populaire aujourd'hui en France?
Alors, ce qui est très intéressant avec les ostensions limousines, c'est qu'il y a un certain paradoxe, puisque la région dans laquelle se déroulent ces ostensions, eh bien, c'est une région assez lourdement déchristianisée, et pourtant, les ostensions attirent beaucoup de monde, et même des personnes qui sont assez éloignées de l'Église, mais qui se revendiquent d'une certaine culture chrétienne. Pour la vie paroissiale du Limousin, c'est un événement très important. Il y a 21 paroisses qui participent, qui organisent ces ostensions limousines, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vont assister aux différentes processions. Alors, le plus beau moment, peut-être, hein, et auquel les auditeurs de Radio Maria qui habiteraient peut-être dans la région pourront se rendre, eh bien, ça aura lieu les 15 et 16 avril, ça aura lieu à Limoges, puisque Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est l'actuel évêque de Limoges, brandira devant la foule pour la bénir le crâne de Saint Martial, qui est son prédécesseur, son premier prédécesseur. Et nous publions d'ailleurs dans les colonnes de France Catholique l'interview de Monseigneur Bozo. Nous publions aussi le témoignage de fidèles de Guéret, qui vont faire revivre les ostensions. L'enseignement, puisque c'est la question que vous avez posée, l'impact, l'enseignement de ces ostensions, eh bien, c'est que la piété populaire attire du monde, sans doute car elle vient parler au cœur de l'homme. À partir des années 60, depuis les années 60, diront certains, il est de bon ton de dénigrer cette piété populaire, de n'y voir qu'une forme d'attachement superstitieux, à l'opposé d'une foi mature, intellectuelle, si ce n'est intellectualisante. Or, la foi populaire, c'est bien l'attachement d'un peuple et on ne peut que valoriser ces moments de communion. Vous savez, Claire, on dit souvent que le football reste le seul vrai moment de communion, qu'à chaque Coupe du Monde où l'équipe de France arrive dans le dernier carré, eh bien, on voit une communion du peuple français, que ça n'arrive nulle part ailleurs. Eh bien, il y a aussi peut-être dans les grands moments de communion cette foi populaire, cette foi discrète, mal aimée par certains intellectuels, mais qui est vraiment l'authentique foi du peuple français. Et c'est la raison pour laquelle ces ostensions, qui sont peu connues en dehors du Limousin, eh bien, France catholique a décidé de les mettre à l'honneur pour les porter à la connaissance d'un maximum de lecteurs.
Merci beaucoup, Constantin. J'espère que les auditeurs seront bien au rendez-vous, du moins ceux qui sont dans la région concernée. Pour terminer cette revue commentée, nous avons l'occasion de nous replonger dans Tintin. Alors pourquoi l'œuvre d'Hergé est dans le collimateur de ce que vous appelez les vigilants?
Oui, les vigilants, c'est le mot français de ce qu'on pourrait aussi appeler, vous savez, les wokistes, hein, de ce mouvement de pensée, alors assez hétéroclite, hein, assez difficile à définir, qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire les tenants de l'annulation, de la censure de certains auteurs ou certains mouvements culturels. Nous parlons d'Hergé d'abord parce qu'on fête les 40 ans de sa mort cette année et comme d'habitude, Hergé est régulièrement accusé de racisme notamment, par exemple pour son album Tintin au Congo qui avait été publié en 1931 et il nous semblait important, alors que nous fêtons les 40 ans de sa mort cette année, eh bien de revenir et de faire honneur à Hergé et rappeler ce qui relève pourtant de la simple évidence, qui est Hergé est avant tout un conteur et que Tintin, son personnage fétiche n'était pas un personnage hors sol. Il était enraciné dans une époque, le XXe siècle notamment, et que ses voyages et que les albums de bande dessinée ne sont que le reflet d'un monde qui change à cette époque. Alors, à la place, eh bien, nous proposons en France catholique plutôt de regarder l'œuvre d'Hergé avec des lunettes anachroniques et médisantes, plutôt regarder ce qu'Hergé a d'universel. Par exemple, ce qu'on appelle la ligne claire, c'est-à-dire la précision et la finesse de son dessin qui peut toucher eh bien, tous les lecteurs de 7 à 77 ans. Rappeler qu'il y avait chez lui un sens de l'intrigue, un sens du décor, un sens aussi du personnage entre Haddock, Milou, les Dupont. Voilà, je pense que de nombreux auditeurs de Radio Maria, quand on parle d'Hergé, de Tintin, on voit défiler devant leurs yeux toute une galerie de personnages. Alors, évidemment, puisque cet article paraît dans un journal qui s'appelle France Catholique, et bien qu'Hergé soit belge, nous interrogeons quand même, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un auteur chrétien? Alors, si Hergé a toujours rappelé à quel point ses années de scoutisme à Bruxelles comptèrent parmi les plus belles de sa vie, il faut souligner qu'adulte, il se détache de la foi chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, son œuvre reste pleine de valeurs chrétiennes et de valeurs chrétiennes qu'on pourrait dire de valeurs chrétiennes malgré elles, puisque les aventures de Tintin, ce sont des aventures où sont exaltées notamment les qualités de Tintin, qui sont le courage, la générosité, la fidélité, la chasteté, la maîtrise de soi-même. Ce n'est pas pour rien que l'œuvre d'Hergé a été appréciée aux quatre coins du globe, hein, pour cette universalité, une œuvre d'Hergé notamment appréciée par les missionnaires, et nous reproduisons dans France catholique des courriers reçus par Hergé, des courriers reçus, envoyés par des religieux et cités par Paul Vendrome dans sa biographie d'Hergé. Je cite par exemple une lettre reçue par le père de Tintin. « Recevez, monsieur Hergé, tous les respects d'un missionnaire qui, dans le sérieux de sa carrière et dans sa solitude, sait encore sourire aux aventures de Tintin. » Voilà un beau témoignage qui permet de chasser l'écume des censeurs modernes.
Merci pour tout, Constantin. Nous arrivons déjà au terme de l'émission. Je rappelle le site de France Catholique à nos auditeurs, france-catholique.fr, france-catholique.fr. Un grand merci, Constantin, pour ce temps passé avec nos auditeurs.
Eh bien, merci Claire et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci.
Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Claire et Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.